Merci beaucoup de nous recevoir. Pasteur Pierre et Nancy ont été un grand cadeau. Ils nous ont traités comme des rois, des princes, des princesses. On a vraiment été bien traités pour servir ici, à Nice. On n'était pas ici en vacances. Je mettais sur Twitter ce matin, c'est très rare que j'écris ça, mais que c'était un voyage exigeant. On n'a pas arrêté une minute en deux semaines, là, vous reconnaissez mon accent, et je ne le supprimerai pas, puisque ça fait partie de la couleur et le son qui vous tiendra réveillé pendant les prochaines 50 minutes. Mais non, c'était un voyage exigeant, un voyage, un périple. On a commencé à Paris rapidement, ensuite à Bourges, où Steve, un compagnon de travail de Montréal, un Québécois, est venu à Bourges dans l'intention d'implanter une Calvary Chapel. Et il est là fidèlement depuis un an avec son épouse. Et on a fait beaucoup d'évangélisation là. Ensuite, on est allé à Paris, où on a passé du temps avec Mike Dante, pasteur Mike, lui aussi fidèle depuis 17 ans, hein, c'est quelque chose à Paris, tu as 10 millions de personnes et les églises, on sent que c'est tout un fardeau qu'ils ont au cœur. Et finalement ici, avec Pierre et Nancy, encore une fois, pour moi, ça me touche. J'étais ici il y a 8 ans, je ne sais pas si certains d'entre vous vous souvenez, mais moi je me souviens de vous, de l'église. Et ce qui me frappe, c'est que ça fait plus de 20 ans que vous existez, plus de 20 ans que vous êtes une lumière à Nice. Et courage, continuez, soyez ces gens appelés, transformez cette société en vivant passionnément pour Christ, et évidemment, comme on va voir maintenant, en l'aimant davantage. Une des choses que j'aimais beaucoup de Steve à Bourges, c'est que facilement cet homme plutôt courageux et plein d'activisme disait « J'aime Jésus ». Et à la limite, pour nous, en Québec, en Québécois, on peut dire c'est un peu quétaine, c'est un peu étrange de dire « j'aime Jésus ». Mais non, parce que sans cet amour, notre vie est sans couleur, est sans passion. Et vous êtes dans la contrée de l'amour, chanson et beauté de ces villes, de ces campagnes extraordinaires. Vous connaissez l'amour, mais connaissez-vous l'amour de Dieu pour vous? Et je crois que oui, mais avez-vous appris à l'aimer de plus en plus et à être passionné pour lui? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, prions et remercions Dieu et aimons-le en prière. Seigneur, merci pour cette belle louange de Lindsay Tonio et celui qui jouait du violon avec talent. Seigneur, on t'aime et on sait que sans amour, nos vies sont fragiles, nos vies sont secs. Seigneur, nous avons besoin d'amour, d'une femme, d'un homme, de nos enfants. Aimons d'aimer nos enfants. Mais le plus grand amour, c'est celui que tu nous as donné par Christ Jésus. Seigneur, ramène la passion de notre amour pour Dieu et aide-nous à comprendre cette grande passion que tu as pour nous, la passion qui t'a amené jusqu'à la mort et celle que nous devons avoir pour les gens de Nice, de la France, qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. C'est pour toi que l'on passe quelques minutes à regarder ta parole. Ouvre nos yeux, ouvre nos pensées, nos cœurs à toi, au nom de Jésus Tout-Puissant. Amen. Alors, nous allons regarder une panoplie de versets, parce que c'est un thème, évidemment. Moi, comme votre pasteur, j'enseigne de façon expositionnelle. Je suis dans le livre de la Genèse, actuellement, et le livre des Actes. Et comme je suis très lent, je me suis dit, je suis mieux de faire un livre dans chaque testament, ou sinon, on va être dans la Genèse pendant 5 ans, les gens vont s'ennuyer. Mais là, aujourd'hui, on fait un thème, et c'est un thème qui m'est cher, et qui l'est à vous aussi, celui de l'amour de Dieu. Dans un petit village, quelque part en Angleterre, il se trouvait autrefois une chapelle. Et sur l'arche, à l'entrée, étaient rédigés ces mots « Nous prêchons Christ crucifié ». Pendant des années, des hommes pieux prêchèrent là-bas, présentant un sauveur crucifié comme le seul moyen du salut. Comme cette génération de prédicateurs pieux passa, il y eut une autre génération qui considérait la croix et son message comme trop vétustes. Alors, ils ont commencé à prêcher le salut par l'exemple de Christ plutôt que par son sang, en ignorant la nécessité de son sacrifice. Pendant ce temps, une plante grimpante du lierre poussa sur le côté de l'arche et couvra le mot « crucifié ». L'arche se lisant maintenant ainsi, « Nous prêchons le Christ ». Et ils le prêchèrent, mais pas comme ayant été crucifié. Finalement, les gens de la congrégation commencèrent à remettre en question la pratique de se confiner au sermon du Christ et de la Bible. Donc, les prédicateurs, comme beaucoup aujourd'hui, commencèrent à donner des discours sur des sujets tels que les questions sociales, politiques, philosophie, renforcement moral. Et le lierre continua à croître jusqu'à ce qu'elle effaça le troisième mot, rendant la phrase tout simplement « Nous prêchons ». Nous sommes dans un monde où nous prêchons. Il y a beaucoup de paroles, évidemment en France plus que partout ailleurs. Vous aimez la parole, vous parlez bien, vous communiquez bien, vous êtes passionné pour la parole, mais qu'est-ce qu'on dit? Et dans les églises, c'est aussi ça. On a perdu notre premier amour, l'amour du Christ crucifié, le sang de Jésus d'ailleurs. Quand on partageait le mot « sang de Jésus crucifié pour vos péchés » avec les gens à Paris, à Bourges ou ici, vous voyez les visages des gens qui se transformaient. Et puis même ceux qui nous accompagnaient de la France étaient un peu « mais c'est trop ». Mais avec, je comprends, parce qu'on sait que ça fait un espèce de message très… Ça coupe, c'est incisif. Nous, les pasteurs, on doit faire bien attention parce qu'on aime être écouté, on aime être aimé. Je veux qu'on m'aime, chantait mon frère musicien. Je veux qu'on m'aime. Alors, les pasteurs, on n'est pas exempt de ça. On veut être écouté. Alors, on a des petites histoires au début de nos prêches. Oh, wow, c'est mignon. Mais est-ce qu'on ose prêcher la parole et parler que de Christ? Venez avec moi dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Premier d'une vingtaine de versets que nous regarderons ensemble. 1 Jean, chapitre 4, et on va commencer dans le verset 7 pour le contexte. 1 Jean, petite lettre, fin du Nouveau Testament, chapitre 4, verset 7. Évidemment, l'apôtre de l'amour, on sait qu'il coucha sa tête sur le sein de Jésus, il était bien près de lui et il était capable de dire « Je t'aime, Jésus ». C'est ce qu'on a l'impression, il le fait dans ses épîtres. Chapitre 4, verset 7 de 1 Jean. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Durant une compétition de feux d'artifice à Montréal, on a une compétition internationale. D'ailleurs, la France fait toujours très bien. Et ce jour-là, l'Espagne présentait son feu d'artifice et c'était sur l'amour. C'est très beau, c'est gratuit. Tu peux aller sur le pont Jacques-Cartier. On connaît les grands explorateurs français. Et on était là et on voyait le feu d'artifice. Et il y a la musique en même temps. Et la première parole de la musique pour la présentation, c'est évidemment la parole des Beatles. All you need is love. Tout ce que tu as besoin, c'est l'amour. All you need is love. Et les dernières paroles à la toute fin de la présentation, tout en voyant ces lumières éclatantes sur le dessus de Montréal, d'ailleurs, venez voir, c'est une bien belle ville. La dernière parole était « Je t'aime comme un fou », d'un chanteur québécois, « Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous », nous disait Robert Charlebois. Alors évidemment, Dieu ne se fout pas de notre amour. Et nous devons l'aimer comme un fou, on doit l'aimer passionnément, mais on sait que le monde souvent se fout de votre amour religieux, spirituel. Ils ne saisissent pas que ce n'est pas votre compassion que vous amenez, mais c'est l'amour du Dieu céleste, créateur, sauveur. Alors on aime l'amour. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? 1 Jean chapitre 4, verset 9. Et là, on va regarder quelques versets sur l'écran, et je sais que vous ne faites pas ça d'habitude. Moi, pendant très longtemps, je ne mettais aucun verset à l'écran, mais je me suis dit, à un moment donné, les gens cherchent dans la Bible aussi, mais je veux pouvoir présenter un maximum de versets. Alors, pour maximiser le temps, là, vous n'avez pas le choix. Lorsqu'ils sont sur l'écran, vous les voyez, ça pénètre votre rétine. Alors, 1 Jean, chapitre 4, verset 9, on vient de le voir, Dieu est amour. Il est amour. Il n'y a rien d'autre qui est amour plus que Dieu. On sait que les gens veulent l'amour d'une variété, d'un pléthore de lieux. Ils cherchent partout. Mais il n'y a que Dieu qui est amour total. 1 Jean 3,16 nous dit, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors là, on voit toujours l'inspiration. L'amour, ce n'est pas seulement quelque chose que tu reçois, on va voir, mais c'est quelque chose que tu redonnes. Mais quelle forme d'amour, quelle texture d'amour, quelle couleur d'amour. Dans 2 Jean 6, vous pouvez regarder dans la Bible, où c'est là ici. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour consiste à marcher. Alors là, on voit rapidement que l'amour se met à être actif, se met à être en mouvance, en mouvement vers l'avant. C'est évidemment dans l'Ancien Testament qu'on apprend à connaître les racines de l'amour. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, chapitre 20, verset 6, Exode 20, 6, lui, Dieu, évidemment, use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, la bienveillance pour les 1000 générations, c'est pour ceux qui l'aiment, qui ont une compassion, une passion, une tendresse envers lui et ses commandements. Venez avec moi cette fois-ci dans Deutéronome, tout début de l'Ancien Testament. Tournez dans la Bible, Deutéronome, chapitre 6, verset 5. On regarde encore une fois les racines, les bases de l'amour. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Ou sinon, on ne croirait que ça vient que lorsque Jésus est venu, mais depuis que le temps est temps, Dieu aime. Et Dieu nous apprend comment l'aimer. Chapitre 6, verset 5 de Deutéronome. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors évidemment, on sait que Jésus va reprendre cela et nous l'enseigner. Au verset 11, toujours de Deutéronome 6, 11, 6. Ah, pardon, 11, 1. Quel amateur, 11, 1. Il faudrait savoir lire, 11, 1. Voilà. Deutéronome 11, 1. Voilà. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Toujours dans le chapitre 11 de Deutéronome, verset 13, en rajoute et dit « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, on voit toujours ces parallèles-là d'obéissance et d'amour, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai, c'est ce qu'on veut pour la France et le Québec, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile, évidemment, en parlant aussi d'abondance spirituelle. Et finalement, au verset 22 de Deutéronome 11, « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, j'aime bien cela, pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes, et plus puissante que vous. » Quelle promesse! Voyez-vous qu'avec cet amour que l'on doit avoir face à Dieu et qu'il a pour nous, une multitude de promesses sont présentées à nous. Mais qu'est-ce qu'aimer Dieu? On va essayer de regarder ça. Évidemment, on pourra enseigner ça pendant des semaines, des mois. Vous comprendrez que c'est quelques minutes, c'est maigre, mais on va faire ce qu'on peut avec le temps qu'on a. On va nourrir un maximum avec les quelques minutes qu'on a. Premièrement, l'amour envers Dieu, c'est ceci. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Oui, en premier, c'est aimer sa parole. On est dans une société où on ne lit plus. On va dans les magasins de livres chrétiens et autres et on voit que le nombre de ventes de livres est en chute libre. Les gens disent « Ah oui, mais je le lis sur mes iPads et mes iMachins, mes trucs. » Mais la réalité, c'est que c'est une belle excuse. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Google, mais on ne lit plus. Alors, toute capacité d'absorber, je sais que la France lit plus que le reste du monde, ça c'est encore vrai, mais c'est quand même en chute libre et vous le savez bien. Mais nous, il faut aimer sa parole, il faut aimer le livre, « People of the Book ». Nous devons être un peuple du livre. Alors, on m'a passé tout à l'heure une Bible en format géant, car j'essaie de renier le fait que je vieillis. Donc, je cache là, je n'ai pas besoin de mettre de petites lunettes. Mais d'ailleurs, c'est bien parce que quand je prêche, « Repentez-vous !» C'est gros, ça donne un poids. Mais sérieusement, la Bible, c'est notre ressource. C'est là où notre amour ultime de Dieu doit premièrement se poser. Il se pose là. On prend cela où? Évidemment, dans Psaume 119. En parlant d'amour, vous voulez aimer votre épouse ou votre époux? Dites-lui, chérie, je te lis un psaume. Et là, 4 heures plus tard, tu termineras le psaume 119. Mon épouse, souvent, Andrea, me demande, lis-moi un psaume. Et elle me dit, psaume 119. Et je dis toujours, non, chérie, psaume 23. Ou quelque chose de court, vous savez. Mais ouais, les pasteurs, hein, souvent mal chaussés. Alors, sérieusement, 119, 47, psaume, venez avec moi. 119, verset 47. Alors, l'amour, premièrement, c'est aimer sa parole. On va voir quelques versets. Psaume 119, 47. « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Je les aime. J'ai une grande joie à lire ta parole. Je prends plaisir. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Alors, encore une fois, il y a un côté émotionnel. Je les aime. Ils sont beaux. Je m'en réjouis. Verset 97. Toujours le même psaume. Je vous disais bien que c'était long. Ici, 97 nous dit « Combien j'aime ta loi ». Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 127, toujours du psaume 119. Verset 127, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et l'or fin. Ah oui, ah bon, comme on dirait par chez nous. Ah bon, est-ce que vous préférez vraiment la Bible que l'argent, que le succès, que l'abondance, que la reconnaissance, que vos études, que votre amour terrestre, oh, j'aime mes enfants, j'aime mon épouse. Non, attention, vous devez aimer Dieu et sa parole plus que toute autre chose. Pas facile, pas facile. Verset 140, toujours de Psaume 119. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Et ça continue. 159, ça dit, considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. 165, et on voit que le point commence à être martelé ici. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Hein? Si tu aimes la parole, tu seras évidemment exempt de souffrance. Ah non, tu seras exempt d'un manque d'espoir. Les malheurs, ce n'est pas seulement les circonstances, mais c'est lorsque tu perds espoir, lorsque tu crois que Dieu t'a abandonné. Si tu aimes sa parole, jamais tu ne te sentiras abandonné par le Seigneur parce que tu le connais, tu es là et tu peux dire, comme on dit en français, « bring it on ». Amen. Amène-en des difficultés. Je suis confiant dans la parole de l'Éternel. Vous vous souvenez de cela? C'est bien avant votre temps, mais peut-être que Pasteur Pierre s'en souvient. « Feelings, nothing but feelings. » Vous vous souvenez de cette chanson de ce chanteur brésilien qui nous a appris qu'est-ce qu'était l'amour, l'émotion, la tendresse. Et ça, dans mes années, les années 75, c'était toute une chanson. Vous et moi, on est à la recherche de l'amour passionnel. On sait que l'humain aime la passion. Donc, on va lire la Bible sur le bord de la mer. Pour vous, ça a peut-être moins d'intérêt. Pour nous, l'océan, la Méditerranée, c'est merveilleux. Même ce matin, je prenais un petit croissant, j'étais sur un boulevard, je me suis dit, faut que j'aille devant la mer. Je n'ai pas eu le temps. Mais on se dit, hein, si je pouvais regarder la mer et lire la Bible, là, peut-être que j'aurais une petite émotion, un petit titillement dans mon cœur, comme on dirait. Ouh, l'émotion. On est toujours à la recherche de l'émotion, évidemment, dans l'amour avec notre époux, notre épouse, nos enfants. On les lance dans les airs, on espère pas les échapper. Ah, émotion, toujours émotion. Alors, avec Dieu, on est à la recherche de cela aussi. Est-ce que c'est erroné? Mais non. Parce que Jésus lui-même pleura pour nous. Il regarda Jérusalem et il pleura. Il n'était pas juste « Je t'aime, sois sauvé ». Il pleure, il vibre. C'est pour ça qu'on appelle ça la passion. Sa mort, elle est passionnelle. Son sacrifice est passionné. Il avait de grandes émotions et il a des grandes émotions pour nous. Alors, c'est correct. Vous pouvez chercher cet amour plein d'émotions pour Christ, aucun problème. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Jésus pleurait pour Jérusalem. Jésus viva et il saigna avant d'arriver à la croix. Il sua. Mais il marcha. Il accepta de se faire amener jusqu'à la croix. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'amour, de toute évidence, est actif, est un choix, est une mouvance vers l'avant. Dans Matthieu 26, 39, « Mon Père, s'il est possible, il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » Donc l'amour, c'est aussi ça, c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que le Père veut. Donc, on voit tout de suite une question de choix. Et on sait, si vous êtes marié, vous avez eu des prémaritaux, j'en fais plusieurs, on dit toujours, l'amour, c'est un choix. Cette émotion, cette passion, elle viendra, elle partira. Mais tu devras aimer. Pasteur Pierre est marié depuis plus de 36 ans. Un choix, une passion. Et je les voyais ensemble et je me disais, mais ils s'aiment. Ils ont choisi de servir Dieu et de marcher jour après jour dans cet amour. Alors, c'est la même chose avec des enfants. Quand ils crient et ils te réveillent la nuit, ben, tu choisis de les nourrir et de les aimer. Et c'est la même chose avec les Français autour de vous qui ne connaissent pas l'Évangile. Tu choisis de les aimer et tu marches là-dedans. Alors, notre amour ne peut pas être différent de celui de Christ. Lui-même se rendit à la croix. Nous aussi devons aimer. Dans 1 Jean 4, 19, on nous dit que pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est le modèle, c'est l'exemple. D'accord? Donc, Christ nous aime, et en retour, on aime de façon active, de façon intentionnelle, comme on aime bien dire aujourd'hui dans le monde de l'Église. C'est intentionnel. Nous aimons, c'est calculé, c'est actif, on avance. Alors, on a dit premièrement que l'amour, c'est aimer sa parole. On s'entend? Deuxièmement, l'amour de Jésus est, eh oui, de garder ses commandements. L'amour, c'est garder ses commandements. On a vu ça, évidemment, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, c'était très clair. C'est tu dois écouter et appliquer la parole. Le ministre de l'Australie nous raconte dans ses mémoires que lorsque la Grande Guerre a éclaté, le Commonwealth australien a immédiatement offert d'accomplir ce qu'elle pourrait pour soutenir l'effort de guerre de la Grande-Bretagne. Ils demandèrent à Churchill et autres maîtres de l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider face à la menace nazie? Et on leur dit, sous forme de communiqué, construisez des navires, s'il vous plaît, nous voulons des navires. Les Australiens décidèrent de ne pas construire de bateaux à ce moment-là, mais ils se dirent, nous allons nourrir la Grande-Bretagne et peut-être une partie de l'Europe. Alors, ils se mirent à travailler très fort dans les champs, davantage, à semer, à récolter des moissons pour envoyer des quantités massives de nourriture vers l'Australie. Très, très bonne idée. Alors, ils ramassèrent tous ces grains et préparèrent une immense récolte pour nourrir ceux qui étaient pris dans la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, tous ces sacs furent amenés au port dans l'espoir d'aider les gens. Ils attendirent les navires, attendirent les bateaux, qui étaient pris, évidemment, dans l'effort de guerre en Europe. Les bateaux n'arrivèrent jamais. Les souris, les rats se mirent dans les grains, histoire vraie, et transportèrent beaucoup de maladies dans les villes adjacentes au port. Et on nous dit que plusieurs hommes et femmes, enfants, devinrent aveugles en résultante de ces rats et insectes et vermines qui mangèrent les grains qui ne purent jamais partir pour l'Europe. Comment aimez-vous Jésus? Aimez-vous Jésus comme vous voulez? Moi, je suis indépendant. J'aime, oh oui, je suis un chrétien moderne, je suis actif. J'aime Jésus, mais en mes propres termes, tu ne me diras pas quoi faire. Tu dois aimer selon ce que Dieu demande. Si on te demande des navires, envoie des navires. Si Dieu te dit, suis mes commandements, suis ses commandements. Dis pas, mais non, mais moi, je suis un chrétien d'un nouveau gabarit. Ah non, ce qui est dans la parole, ça tient encore le coup aujourd'hui. Alors, comment aimes-tu Jésus? Selon tes propres approches ou selon ce que Christ lui-même nous demande? Venez avec moi dans Jean 14, 15. Jean 14, 15 dans la Bible. Alors, on retrouve ce même apôtre de l'amour qui, dans son évangile, nous parle bien clairement de ce que Jésus a dit. Jean 14, 15. Vous connaissez bien sûr les passages. « Si vous m'aimez, dit Jésus. » Alors, évidemment, quand Jésus parle, j'écoute. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai, il dit après, le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements, et c'est notre cas, on s'entend là-dessus, on a la parole devant nous, « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 22, Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu d'où viens que tu feras connaître à nous et non au monde. » Voilà. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Au verset 23, « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Finalement, au verset 9 du chapitre 15 de Jean, 15, 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Jésus nous dit ici, « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » L'amour produit la joie, et ça c'est très clair ici, si tu gardes ses commandements et que tu aimes Christ, tu vivras dans une abondance, dans une joie profonde qu'on a tant de désirs de connaître. Il y a 613 commandements individuels dans la loi mosaïque, 613 selon les Juifs, ils font le décompte, 365 négatives, et 248 lois ou commandements positifs. 365 négatifs, ne fais pas cela. 248, fais ceci. Et vous savez bien que Jésus, lui, dans sa tendresse, sachant que le frigidaire n'est pas assez long pour mettre les 613 commandements et que de toute façon, nous allons les briser les uns après les autres, ou à peu près, il réduit ça à deux. Et vous les connaissez, on les a vus un petit peu dans Deutéronome, il reprend Deutéronome dans Marc 12, 13. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, évidemment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Regardez les deux ici, et peut-être qu'on ne regarde pas ça dans ce sens-là, c'est l'amour. Tu aimes et tu aimes. La base de la foi chrétienne, c'est l'amour, rien d'autre. C'est l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Et vous voulez de l'amour? Il y en a plein la parole. Dieu n'a que de l'amour et n'a qu'un exemple d'amour pour nous et des commandements d'amour pour nous. Aime-moi, aime ton prochain. Dans 1 Jean 2, 5 et 6, nous regardons toujours ici, pour être plus rapide, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Je ne sais pas ce que vous cherchez dans la vie, mais moi, je désire que l'amour de Dieu soit parfait en moi. Ouh, c'est un peu arrogant, ça. Non. Si tu suis les commandements de Dieu, les 613, oh là là, j'en ai brisé 8. L'amour de Dieu n'est pas parfait en moi. Non, les deux. Très simple. Aime Dieu, je t'aime. Et aime ton voisin, oh mais il est un peu pénible. Aime ton voisin et l'amour de Dieu est vraiment parfait en toi. Quel espoir, quelle joie, quelle abondance. Troisièmement, aimer le Seigneur, c'est haïr le mal. Aimer le Seigneur, c'est haïr le mal. On a dit que aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Deuxièmement, aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements. Troisièmement, ici, aimer le Seigneur, c'est haïr le mal. Psaume 97, 10. Psaume 97, 10. Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Il protège la vie de ses fidèles et il les délivre des méchants. Tu aimes Dieu, haïs le mal. Il y a vraiment un opposé ici. Plus tu aimes Dieu, plus tu détestes le mal. Je regardais, et oui, les guignols de l'information. Écoutez, que dire? Quand tu regardes cela, c'est cocasse, c'est drôle, mais ça vole pas haut. Et on peut toujours, dans nos vies personnelles, trouver une espèce d'entre-deux. Je suis un chrétien moderne. J'aime Dieu, mais j'aime un peu aussi le monde. Un peu le mal, quoi. Pas trop. Je ne fais pas le mal, mais je regarde le mal. Je digère le mal, je négocie avec le mal, je négocie avec le péché, mais non, mais pas personnellement, mais les autres, c'est pas moi. Haïssez le mal. On a dit qu'aimer le bien, c'est actif. Haïr le mal, c'est peut-être peser le bouton, dire ok, c'est assez. Hein, des farces plates, comme on dit par chez nous, à d'autres. Bien sûr, c'est un exemple très simple, mais constamment, nous sommes interpellés à faire des sélections face à ce qu'on regarde, face à ce qu'on choisit, face à ce qu'on écoute, à nos amis. Et quand on dit haïr, c'est pas avoir une haine de destruction, c'est dire non. Non, merci. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Hébreux 1:9 nous dit ceci. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. C'est peut-être là, finalement, lorsqu'on est capable de faire une sélection dans ce que le monde nous offre comme étant la nouvelle vérité, bien, on est capable de mettre cela de côté et de ne pas s'ennuyer des choses du monde et de devenir passionné pour les choses de Dieu. Et peut-être qu'à ce moment-là, on est plus utilisable par Dieu. On est moins teinté par le monde. On est plus en amour avec Dieu, moins en amour avec le monde. Dans les paroles de Jésus, tu ne peux pas aimer les deux. Moi, je veux bien aimer les deux. Moi, j'aimerais être chrétien plus. Hein? On veut une espèce de dualité. On aime être un homme du peuple et du monde, informé, actif, et en même temps être un bon chrétien. Bien, la racine, une des racines du mal, c'est l'argent. Que peu d'entre nous possédons, mais quand tu es ta canne, tu te dis, oh là là, on voit qu'il y a une petite racine ici, assez puissante pour déraciner un édifice, quoi. Luc 16:13, regardez ce que Jésus nous dit. Luc 16:13, est-ce qu'on l'a là ou peut-être que je l'ai ici? Ouais, je pense qu'il est ici. On va aller dans la Bible, parce que quand Jésus parle, il faut voir surtout. Luc 16:13. Vous connaissez le passage, sinon je vous le lis. Luc 16:13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Alors, Sébastien, pasteur québécois, tu arrives ici, tu mets des culpabilités, guignol de l'info, là on ne peut pas avoir de sous, il faut être finalement des ascètes. Aller dans des monastères, dans les montagnes. Pas du tout. Je fais de la moto avec ma belle épouse brésilienne. J'aime le monde. Je voyage. J'aime tout. J'aime le cinéma. J'aime la vie. Mais attention! Vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir un cœur divisé. Quand je suis en moto, j'aime Jésus. Je pense à lui. Je remercie Dieu pour l'épouse que Dieu m'a donnée. Mais je ne suis pas, oh, si je pouvais avoir plus. Si je pouvais, je veux une plus grande église. Pourquoi il n'y a pas plus de monde? Pourquoi je ne suis pas sur Twitter avec des immenses services? Parce que vous savez que les pasteurs, on n'est pas exempt de ça. On veut plus de gens, on veut plus de reconnaissance, on veut plus. Tu ne peux pas servir les deux. Tu sers Dieu ou tu sers Le mammon. Le mammon, c'est pas seulement l'argent, c'est ton désir de reconnaissance, d'être grand, d'être spécial. Et l'argent, évidemment, te donne beaucoup de cela, on sait. Si tu as un jet qui se pose ici à Nice et que tu prends une limousine jusqu'à Cannes, tu te sens spécial. Mes frères et mes sœurs, il faut choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Ceci étant dit, si tu es béni, si Dieu t'a donné des dollars, des euros, des francs suisses, ben, utilise-les à bon escient. Utilise-les pour servir Dieu et non mammon. Et ça, c'est le grand défi. Même chose avec nous. S'il y a des gens dans ton église, utilise-les pour servir Dieu, pas pour te servir toi. Alors, encore une fois, les hommes de foi sont loin d'être exempts de ce défi de vivre pour Dieu et pas pour eux-mêmes. Donc, on s'entend. Si on aime Dieu, on haït le mal. Non, je n'en veux plus, je n'en veux pas, je ne combine pas deux mondes, je vis pour Dieu. Quatrièmement, aimer, c'est un amour qui, on en a parlé un peu, qui est actif, qui est vers l'avant. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. 1 Thessaloniciens, 1, 3. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi si efficace. Votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, c'est des verbes, là. C'est des choses qui rendent ton amour vraiment concret, qui n'est pas l'émotion simple. Et on sait que Jésus sua du sang. Pour suer du sang, il faut que tu arrives au bout, hein? Au bout de toi-même, au bout de ce que tu pensais que la vie t'amènerait. Êtes-vous déçu par la vie? Avez-vous été surpris de la souffrance qui vous a ramassé dans un coin? Moi, j'ai eu des grandes épreuves dans ma vie et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur? Je t'aime, je te sers. Ah bon? Aime-moi en suant du sang. Arrive au bout de toi-même. Évidemment, je ne me compare pas à Christ. Ce que je veux dire, c'est que j'arrive au bout de moi-même et je suis obligé, et vous êtes obligé, de mourir à vous-même. C'est actif. La mort, c'est actif. Hein? On meurt physiquement, littéralement, et on arrive au bout de soi-même. Bon, alors aimer, c'est ça, c'est agir, c'est aller vers l'avant. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 14, Colossiens 3, 14, et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Mettez l'amour. Ici, dans une autre traduction, j'aime bien « revêtez-vous de l'amour ». Qu'est-ce que tu mets le matin? Qu'est-ce que tu mets le dimanche? De quoi t'enveloppes-tu? On aime les belles fringues, on aime les beaux bijoux, mais il faut se revêtir de l'amour de Dieu. Encore une fois, c'est une action. J'aime particulièrement Jude 21. Jude 21, et c'est le titre de notre étude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Tu te maintiens. Pour te maintenir, c'est pas passif. C'est pas se laisser couler dans le flot de la vie, mais c'est se maintenir. Je vous dirais même que c'est résister aux immenses courants actuels de par le monde, partout différents d'une société à l'autre, mais qui se ressemblent tous, qui veulent t'amener dans cette large voie qui t'amène vers la destruction. Tu te maintiens, tu refuses. Non, je ne laisserai pas ma vie couler dans l'autoroute du mal et du mensonge. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement avec respect. Ici, ma traduction dit « travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Ah, oh, OK, là tu es déterminé à avancer dans la connaissance de l'Éternel, à ne pas reculer et tout autour veut te tirer vers l'arrière, et toi tu dis non. Une chose que je fais, nous dit Paul dans Philippiens chapitre 3, je fonce vers l'avant, vers l'appel céleste que Dieu a pour moi. Est-ce que c'est votre vie? Allez-vous vers l'avant? Êtes-vous déterminé à foncer vers le plan que Dieu a pour vous et amener d'autres avec vous dans ce chemin? Alors, on sait comment se garder en santé. Hein? On se garde en santé, on fait de l'exercice, on va nager dans la mer, on fait de la bicyclette, on sait comment découvrir le monde par le voyage, on sait comment lire, comment s'éduquer, mais est-ce qu'on sait comment se garder dans l'amour de Dieu? C'est notre défi. Maintenez-vous, gardez-vous, nous parle vraiment d'un travail. Ça nous parle de agonizomai, en grec, nous parle de, et pas nécessairement ici, mais en général, Paul nous parle de agoniser dans la connaissance de l'Éternel, ça veut dire pas nécessairement souffrir à la mort, mais être déterminé à connaître le Seigneur davantage, plus que toute autre chose au monde. Alors, est-ce que vous prenez plaisir dans les choses de l'Éternel? Est-ce que vous satisfaisez dans les choses de l'Éternel? Est-ce que vous maintenez dans l'amour de Dieu? On a vu Philippiens 2, 12, mais regardez Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13, « Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan, le vouloir et le faire. » Mes frères et mes sœurs, c'est Dieu qui le fait. Alors, ne soyez pas légaliste, hyperactif, toujours dans cette tension de vouloir performer pour Dieu, c'est pas mieux. Mais soyez désireux d'aimer Dieu davantage et conscient que c'est lui qui fait l'œuvre. Seigneur, je sais pas comment t'aimer. Je pensais t'aimer, mais je préfère tout sauf lire la Bible, je préfère tout sauf aller à l'église. Pourquoi? Parce que ta chair est forte. Parce que le combat à l'intérieur, il rage. C'est correct. Et vous savez, les pasteurs sont loin d'être mieux. Nous aussi, on est comme ça, on a une espèce de bataille intérieure. Mais on demande à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-moi à t'aimer, aide-moi à être passionné pour toi. Et il le fera, mes frères et mes sœurs. C'est lui qui va implanter cette semence d'amour, de passion, d'action vers lui. C'est lui qui va le faire. Ou sinon, vous devenez des hommes et des femmes légalistes et par vos propres efforts. Et quand on fait ça par nos propres efforts, vous savez ce qui se passe? On implose, on éclate, on glisse. On n'est plus capable, comme on dit par chez nous, c'est pas possible. Seigneur, fais-le. Donne-moi cet amour. Rafraîchis ma passion pour toi et il le fera. Numéro 5, qu'en est-il quand vous faillissez? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas capable d'aimer? Ah, ben là, désolé, mais on passe au prochain. Hein? Vous êtes mis au rencard finalement et Dieu ne peut plus travailler dans vos vies. Mais non, parce qu'on voit dans Jean chapitre 21, verset 15, venez avec moi dans la Bible, Jean 21, regardez ce qui s'est passé. Pierre a tellement failli dans son amour. Écoutez, Pierre avait été avec Christ, avait passé 3 ans. C'est lui qui a identifié qu'il était le Christ. Il était si passionné pour Dieu. Et pourtant, quel désastre! Est-ce que c'est vous et moi? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez vraiment désastreux dans votre amour pour Dieu? Vous le faillissez, vous êtes faible, vous êtes égoïste. Oh, Jésus, ouais, il est cool, mais je suis pas sûr. Hein, vous êtes un peu, finalement, je le connais à peine. Moi, l'Église, de temps à autre. Alors, c'est ce que Pierre a fait, non? Regardez ce qui se passe ici dans Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Verset 17, chapitre 21 de Jean, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus répondit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra. » Ça coûtera la vie à Pierre. Et Jésus lui rappelle, « M'aimes-tu? 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 » C'est ce qu'il vous demande. M'aimes-tu? Eh oh, m'aimes-tu? Et là, il dit, tu m'aimes, super, vis pour toi-même. Paix ton troupeau, occupe-toi de ta carrière. Oh, t'as une belle famille, ça, c'est un bel idole. Ah, tes enfants, c'est un idole, ça, c'est correct. Non, ni tes enfants, ni ta carrière, ni ton argent, ni ton voyage, ni ton pastorat, mais lui seul et son Église. Aimes-tu son Église? Sers-tu son Église? Je ne parle pas de Calvinisme. Je parle de l'Église universelle, mes frères et mes sœurs. Il faut bâtir son Église. Et maintenant, on a besoin de milliers d'églises en France pour rejoindre votre peuple. Et au Québec, à Montréal seul, on a besoin de 4000 nouvelles églises pour toucher les Montréalais. Il y a du travail à faire. Ah ben, c'est Pierre qui le fait. Ah bon? Comme on dirait par chez nous. Alors oui, il va toucher 7 autres personnes. Ça va être merveilleux dans les prochaines semaines, mois. Mais vous, vous pouvez en toucher des centaines, vous comprenez? Vous comprenez que si les Français s'activent à aimer Dieu par la force de Dieu, les gens diront, attends une seconde, là, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas qui est réel dans le cœur de ces Français, Françaises, Québécois, Québécoises. Aime son Église, paie ses brebis. En deux mots, partage l'Évangile, amène les gens à aimer Dieu. Va sur la promenade des Anglais, dis, hey, oh, écoute, c'est quoi le sens de la vie?
Oh, je sais pas.
Ben écoute, moi j'en ai trouvé un. J'étais un jour un acteur. Je voyageais, je jouais, j'aimais la vie et je suis arrivé au bout de moi-même. Les drogues, la cocaïne, le sexe, plus rien ne me satisfaisait. Je suis parti en voyage, j'ai trouvé Jésus. Oh, et j'ai trouvé un sens à la vie. Veux-tu au moins prendre ce Nouveau Testament-là?
Oh, OK.
Et ils le prennent. Ils le prennent. Pas une personne à qui j'ai offert le Nouveau Testament ne l'a pas pris. Pas une personne ne m'a pas répondu. Pas une personne, ni à Paris, ni à Nice, ni à Bourges, n'a pas pris le temps, une fois qu'on avait engagé une discussion, de réellement s'ouvrir et d'écouter mon témoignage et de prendre le Nouveau Testament. Mes frères et mes sœurs, les gens ont faim et soif. Aimes-tu les gens autour? Aimes-tu? Est-ce que tu veux paître ces brebis? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Jésus est préoccupé par son Église. Je conclue. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5, 3. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et j'aime bien cela. Ses commandements ne sont pas pénibles. Oh, être chrétien, c'est pénible. Suivre Dieu, c'est pénible. Tout est dur. C'est Jésus, à travers la lettre de Jean, 1 Jean nous dit que ce n'est pas pénible, c'est que ce n'est pas pénible. Ce qui est pénible, c'est la religion. Ce qui est pénible, c'est vouloir performer ou pour Dieu ou pour le monde. Mais suivre ses commandements dans l'amour de Dieu, dans la puissance de l'Esprit-Saint, ce n'est pas pénible. C'est la grande joie, la joie totale. Je termine avec un grand médecin qui est devenu théologien, Martin Lloyd-Jones, nous donne 10 simples petite façon pratique de s'assurer que nous demeurons dans l'amour de Dieu. Et je vous donne une panoplie de versets ici rapidement en rafale. Premièrement, écoutez bien. Y a-t-il une perte de sens que Dieu est pour toi dans ta vie? Comprends-tu que Dieu est pour toi? Mais non, non, c'est pas possible. J'ai pas de travail, j'ai pas d'amour, je souffre, je suis malade. Donc Dieu n'est pas pour moi. Romains 8, 31 est clair. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, pour demeurer dans son amour, sachez que Dieu est pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, et Dieu est pour vous. Deuxièmement, y a-t-il une perte de la peur terrifiante de Dieu et plutôt une croissance équivalente de la révérence de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous aimez Dieu de plus en plus de façon révérentielle? Tu es si magnifique. 1 Jean 4, 18, je vous le lis rapidement, vous pouvez noter ça pour plus tard. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mes frères et mes sœurs. N'ayez pas peur de Dieu, mais aimez-le. Et ayez cette révérence que tu es magnifique sur toute la terre. Numéro 3, est-ce que je sens l'amour que Dieu a pour moi? Est-ce que je sens l'amour que Dieu a pour moi? 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Est-ce que tu sens l'amour de Dieu? Bien ça, c'est une façon de demeurer dans son amour. Et évidemment, tout ça se trouve dans sa parole. Ça, c'était 1 Jean 4, 16. Numéro 4. Est-ce que je sais que mes péchés sont pardonnés? Ça, c'est important, vous savez, parce qu'on pèche encore beaucoup. Romains 4, 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Donc, si tu sais que tu es pardonné, il y a de l'espoir. Et on parlait de ça ce matin, pasteur Pierre et moi. Heureusement que Dieu nous utilise malgré nous. Heureusement que Dieu grandit son Église malgré nous tous. Parce que nous sommes profondément pécheurs, mais nous sommes pardonnés. Numéro 5. Est-ce que j'ai un sens de gratitude pour Dieu? Un sens de gratitude pour Dieu. Colossiens 2, 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, écoutez bien, enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. » Donc, quand tu es en gratitude, l'amour de Dieu peut rayonner de ta vie. Si tu prends les choses pour acquis, si tu prends les choses, « Oh, c'est normal, je suis ici à Nice, je fais un voyage missionnaire, c'est normal, je suis pasteur, ça devrait se passer. » Non, 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 ce matin, j'envoyais sur Twitter des détails de notre voyage parce que j'étais vraiment dans la gratitude, Seigneur. « Ouais, je suis fatigué, je m'ennuie de mon épouse, j'ai hâte d'être avec elle. Oh là là, pénible !» Mais pénible parce que ma chair, mes gratitudes, parce que Dieu m'a amené ici avec vous ce matin, ici dans votre beau pays pendant 2 semaines, que j'ai pu vivre ma foi parmi des gens, des femmes et des hommes qui cherchent Dieu. J'ai pu partager l'Évangile. Êtes-vous dans cette gratitude-là ou vous êtes, « Oh bon, OK, c'est bien l'Église, OK, on passe à autre chose. Next. » Numéro 6. Est-ce que j'ai une haine pour le péché croissante en moi? Romains 7, 15 et 16. « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi que la loi est bonne. » Avez-vous une haine pour le péché? Numéro 7. Est-ce que je désire faire plaisir à Dieu et vivre une vie pieuse? 1 Jean 2, 5. « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Par là, nous savons que nous sommes en lui. Numéro 8, est-ce que je désire mieux connaître Dieu et m'approcher de lui? Ça devrait être votre désir le plus ardent. Je veux connaître Dieu. Je veux qu'on m'aime, d'accord? Une des prières de tout homme sur la planète Terre. Mais je veux mieux t'aimer en te connaissant. Philippiens 3, 10, Paul nous disait, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à le connaître. » Numéro 9, et on termine bientôt. Y a-t-il un regret conscient que mon amour pour lui est moindre de ce qu'il pourrait être? On vient de voir ça avec Pierre. Es-tu conscient que ton amour est faiblasse? Que ton amour pour lui n'est que au tout début de son expansion? Donc, il y a beaucoup de choses à vivre, à développer dans ta croissance avec Dieu. Philippiens 1, 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, nous disait Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Je termine avec ce que Martin Lloyd-Jones a dit pour s'assurer que nous demeurons dans l'amour de Dieu. Numéro 10, y a-t-il un sens de délice d'entendre parler de Dieu et des choses le concernant? On vient de parler pendant 50 minutes. Est-ce que vous délectez de connaître Dieu dans la parole? Psaume 1 et 2, évidemment. « Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Je termine avec un beau passage dans l'Ancien Testament que j'aime bien. Et si vous n'avez pas choisi cette vie, regardez bien cela. Deutéronome 30, verset 19. Je ne sais pas si c'est là, oui, c'est un beau verset. Deutéronome 30, 19. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la bénédiction d'autre part. C'est vraiment ça les choix de vie. Vous êtes d'accord? Regardez bien. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Vivre, c'est aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Est-ce que tu aimes l'Éternel? Est-ce que tu as... Écoutez, nous sommes en France, vous aimez la vie, vous êtes humaniste, vous croyez que l'humain peut faire de grandes choses, merveilleux, moi de même. Mais aimer et de comprendre ce que Dieu peut faire à travers l'homme, c'est aimer Dieu. Est-ce que vous avez choisi d'aimer autre chose? Est-ce que vous vous aimez vous-même plus que vous aimez Dieu? Si c'est le cas, je vous implore d'aimer Dieu, parce qu'il est notre vie. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins que Dieu créateur. Aimez-le, choisissez-le. Soyez un enfant de Dieu. Il nous donne la capacité de le devenir si on croit en lui, si on met notre foi en lui. Avez-vous fait cela? Et ainsi, vous commencerez à connaître le plein amour que, oh, vous cherchez donc, l'amour de Dieu. Aimez-le de tout votre cœur. Aimez-vous Dieu en ces termes ou les vôtres? Nos émotions sont belles, mais sont insuffisantes. Elles doivent nous amener à une action. Et cette action commence aujourd'hui. Si vous n'avez pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, je vous invite à le faire en toute humilité, à vivre pour lui dès aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans ses voies. Merci de m'avoir permis de vous parler et que vous puissiez vivre dans l'abondance de l'amour de Dieu, aujourd'hui et à jamais.